Donc, première illustration, tester la validité comportementale des modèles neuroscientifiques. Ça fait un peu pompeux comme ça, mais je vais juste vous montrer une illustration centrale où on regarde les modèles neuroscientifiques. On se demande ce qu'ils prédisent au niveau comportemental et puis on teste si en effet, sans discuter du fait qu'il y ait des modifications cérébrales assez clairement, mais qu'est-ce que ça donne au niveau du comportement de l'individu? Et est-ce que ces postulats des modèles théoriques, encore une fois souvent développés dans des modèles animaux, qu'est-ce que ces postulats, comment ces postulats s'appliquent réellement ou peuvent être vérifiés sur des données de neurosciences comportementales? Ce que je vais vous présenter ici se base sur un postulat majeur d'un modèle, le modèle de Robinson et Berridge, qui est un modèle vraiment très influent, assez ancien, mais très influent dans les neurosciences, et qui suppose, qui postule que le développement de l'addiction se fait via un apprentissage progressif où la personne, quand elle consomme la substance, va avoir des effets, va ressentir des effets positifs et donc va, par apprentissage, attribuer une saillance motivationnelle aux stimuli liés à la substance. À force de consommer de l'alcool, et du fait que l'alcool, en premier temps, m'apporte des sensations positives, eh bien, je vais associer, implicitement ou explicitement, une valeur positive à tout ce qui est lié à l'alcool, donc à la consommation elle-même, mais aussi au fait de voir une bouteille d'alcool, de voir une publicité pour l'alcool, et on va donc avoir une science motivationnelle attribuée à ces stimuli. C'est lié, selon ce modèle, à une hypersensibilisation du système dopaminergique, où mon système va être pris en otage par la substance et va surréagir, se suractiver à chaque fois que je serai confronté à la substance, et aussi se sous-activer quand je suis confronté à d'autres choses que la substance. Donc il y a vraiment une prise en otage de ce système, et un passage, selon Robinson et Berridge, du liking, c'est-à-dire je consomme en renforcement positif parce que ça m'amène du plaisir, au wanting, où le système est encore une fois pris en otage, et le système cérébral, et on a besoin de la substance, et on en consomme parce qu'on a besoin de la substance. Donc, passage, renforcement positif, renforcement négatif. Mais ce qui est important, c'est que Robinson et Berridge n'ont pas testé, et ceux qui ont suivi, ne testent pas comportementalement ce qui se passe. Est-ce que vraiment il y a comme ça cette science motivationnelle et cette attraction automatique et inconditionnelle vers les stimulations liées à l'alcool? Le corrélat cérébral comportemental qu'ils supposent, c'est l'existence chez les patients d'un biais attentionnel. Donc, pour faire très simple, le biais attentionnel, c'est l'idée que face à des scènes complexes, eh bien, une personne saine et non consommatrice excessive d'alcool va explorer la scène et peut regarder soit Ted, soit le vieux Mark Wahlberg. Mais par contre, des personnes qui sont dépendantes à l'alcool vont, de manière automatique, donc c'est quelque chose de non contrôlé, vont avoir leur attention automatiquement attirée vers les stimuli alcool dans la scène. Ça, c'est un biais attentionnel. L'hypothèse étant que c'est quelque chose d'automatique, de direct, parce que le système de récompense est hyperactivé par ces stimulations. Donc, si on revient au schéma que je vous ai présenté antérieurement, le biais attentionnel est l'indice comportemental postulé, unique ou massif, de la suractivation du système impulsif. Et on peut relire les papiers de neurosciences, c'est toujours quelque chose qui est postulé. Le problème est que c'est la réalité ou l'intensité de ce biais attentionnel et les postulats qui y sont rattachés ont été peu testés. Mais donc, encore une fois, l'idée générale, c'est ce biais attentionnel est central. Il résulte de la suractivation du système impulsif ou du système dopaminergique. Il est central et il est le lien entre l'hyperactivation et la consommation. Et donc, c'est vraiment un facteur considéré comme majeur dans l'émergence et dans la persistance des troubles de l'usage d'alcool. Mais on va repartir des postulats de ce modèle. Selon ce modèle, le biais est précoce, voire automatique. Je ne vais pas parler d'automaticité, c'est des longs débats. Mais en tout cas, l'idée est que dès qu'un stimulus lié à l'alcool apparaît dans l'environnement, et indépendamment du contrôle volontaire qu'on peut effectuer, la personne va avoir son attention automatiquement attirée vers ce stimulus et de manière très précoce et rapide. Deuxième chose, puisque l'hyperactivité du système dopaminergique est stable dans le temps et constante, ce biais devrait être aussi stable dans le temps puisqu'il en est le reflet, et donc il devrait être indépendant de l'état motivationnel de la personne, et notamment du craving, c'est-à-dire que la personne est en fort envie d'alcool ou pas fort envie d'alcool au moment où la stimulation liée à l'alcool apparaît, cette personne devrait être automatiquement attirée vers ce stimulus. Donc, indépendant de l'état motivationnel, on est toujours attiré par les stimuli liés à l'alcool. Et puis, un dernier postulat, il y en a d'autres, mais je vais me centrer sur ces trois-ci, c'est qu'il est proportionnel à la sévérité du trouble. On apprend progressivement à associer une science motivationnelle à l'alcool. Et donc, on peut faire l'hypothèse que ça va arriver progressivement et que donc, les personnes avec un trouble sévère de l'usage d'alcool devraient avoir un biais attentionnel plus fort, beaucoup plus fort que les populations sous-cliniques, et notamment les binge drinkers. Binge drinkers sont classiquement c'est la population sous-clinique la plus fréquemment explorée dans les troubles de l'usage d'alcool. Ce sont souvent des étudiants qui consomment beaucoup et qui ont une consommation excessive, mais depuis une plus faible période, et qui ne sont pas encore caractérisés comme dépendants à l'alcool. Donc c'est la population sous-clinique classique. L'hypothèse de ces modèles devrait être que le biais attentionnel devrait être beaucoup moins présent chez les binge drinkers que chez les patients. Tout le problème de ça, c'est que quand on passe des modèles neuroscientifiques au comportement, les preuves empiriques, elles sont assez limitées. D'une part, les gens qui ont voulu mesurer le biais attentionnel ont trouvé une large hétérogénéité chez les patients dans la présence de ce biais. C'est-à-dire, parfois, il y a un biais qui est souvent faible, parfois, il n'y a pas de biais, et même parfois, il y a un biais d'évitement. C'est-à-dire que les patients évitent, ne sont pas attirés par le stimulus, mais au contraire, évitent ces stimuli liés à l'alcool. Il y a aussi un problème méthodologique parce que l'approche utilisée classiquement, c'est une approche comportementale avec la visual prop task. J'entre pas dans trop de détails, mais globalement, on mesure juste le temps de réaction que les participants mettent pour observer l'alcool ou d'autres stimuli. Donc, on a à la fois un problème de résultat et un problème méthodologique. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans la thèse de Zoé Bollen, c'est tester comportementalement les trois postulats de ces modèles, c'est-à-dire que le biais est précoce, automatique, le biais est stable, indépendant du craving ou de l'envie actuelle pour l'alcool, et puis le biais est proportionnel à la sévérité du trouble. Et on a voulu le faire avec une méthodologie plus fiable, et c'est là que l'aspect neuropsychologie intégrative apparaît, c'est-à-dire qu'on se pose des questions comportementales et de psychologie expérimentale, et on l'aborde avec une technique, alors c'est pas des neurosciences, light tracking, mais une technique de neuropsychologie, où on va utiliser, plutôt que des temps de réaction simples, on va utiliser light tracker avec une fiabilité qui est largement supérieure au temps de réaction. Et donc, ce qu'on va faire, c'est suivre, enregistrer la position du regard d'une personne lors de l'exploration libre de stimuli. Et donc, ce qu'on observe ici dans cette grille, c'est qu'on a des stimuli liés à l'alcool, du vin, de la bière, et des stimuli non liés à l'alcool, donc des softs. Et ce qu'on veut observer, c'est comment les patients, en comparaison au contrôle, explore la scène visuelle. L'intérêt du light tracking, c'est qu'on peut suivre l'orientation du regard. Et donc, ce qu'on va observer, c'est deux indices majeurs. Le premier, donc la personne fixe une croix de fixation au départ, et puis elle peut explorer librement. Il n'y a pas de consigne, elle explore librement la scène. Ici, on va suivre le tracé d'une personne. La première chose qu'on peut observer, c'est à partir du point central, quel est le premier stimulus vers lequel s'oriente la personne. Ici, un soft. Donc, ce que ça nous donne, c'est la localisation de la première fixation, donc là où la personne regarde en premier. Et ça, c'est un indice de l'attention, finalement précoce, automatique de l'attention. Okay. Puis la personne, librement, va continuer à explorer. Et donc ici, la taille du cercle indique le temps passé sur chaque stimulation. Et donc, le deuxième indice qu'on va pouvoir avoir, c'est un indice de temps d'attention plus tardive et contrôlée, où après cette première fixation, cette attraction automatique vers une des stimulations, la personne va pouvoir explorer la scène et va passer un temps différent sur chaque stimulus. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dwell time, donc le temps total de fixation. Ça montre l'attraction plus contrôlée, c'est-à-dire plus je regarde un stimulus, plus je suis intéressé par ce stimulus. Et donc ici, par exemple, on voit si le temps est représenté par la taille des cercles, on voit que la personne a un biais attentionnel tardif vers l'alcool, puisqu'il regarde plus les stimuli liés à l'alcool que les stimuli non liés à l'alcool. Vous l'avez ? Oui.
J'ai juste une question, est-ce que je connais pas bien la manie ? Est-ce que, pour vous, la familiarité par exemple, moi, dans ce truc-là, le bocal, mais j'aime pas ça, mais je sais plus tout ce que c'est, je vais pas l'explorer longtemps, alors que celle qui est en bas, j'ai aucune idée de ce que c'est.
Oui, tout à fait. Donc là, oui, il y a un aspect de nouveauté, évidemment. Ça, on contrôle, en fait, les images sont appariées entre un soft, c'est une batterie de stimuli, et elles sont appariées en termes de fréquence, pas de rencontre individuelle, mais de fréquence dans la société générale, et aussi, évidemment, des aspects plus basiques de luminance, de contraste, etc. Donc il y a un contrôle là-dessus. Merci. Donc là, ce à quoi ça nous sert, c'est à tester le postulat numéro 1. Donc l'idée, si le biais attentionnel est quelque chose d'automatique et juste le reflet d'une hyperactivation forte, les personnes avec une dépendance à l'alcool, les personnes dépendantes à l'alcool devraient avoir, pour la première fixation, avoir plus tendance à regarder automatiquement, avoir leur attention automatiquement attirée vers les similés à l'alcool que vers les softs. Donc, postulat numéro 1. Deuxième postulat, on compare ici des patients, ils ont donc trois groupes, des groupes contrôle, un groupe contrôle qui ne consomme pas, un groupe de patients avec craving et un groupe de patients sans craving. C'est-à-dire qu'on mesure l'intensité de l'envie autorapportée d'alcool au moment de la passation de l'étude. Okay. Ça permet de tester le second postulat parce que si l'état motivationnel actuel n'a pas d'influence sur cette attraction, comme c'est postulé par les modèles, on ne devrait pas observer de différence entre ces groupes-là, c'est-à-dire ceux qui ont envie d'alcool au moment de l'étude et ceux qui n'ont pas envie d'alcool au moment de l'étude, puisque ça devrait être quelque chose d'automatique et de non dépendant de l'état motivationnel. Qu'est-ce qu'on observe ? La première chose, c'est qu'on n'observe pas de différence de groupe pour l'attention précoce, donc la première fixation. Donc les personnes avec un trouble de l'usage d'alcool n'ont pas une tendance automatique, ou précoce en tout cas, à avoir leur attention attirée vers les stimulations alcool. Donc il n'y a pas de biais précoce ou automatique. La deuxième chose qu'on observe, c'est quand on regarde le temps total passé sur les stimulations. Donc ici, vous avez les sujets contrôle entre les patients dépendants qui ont un craving au moment de l'expérience et ceux qui n'en ont pas. On voit que pour les contrôles, on a un résultat classique qui est le fait qu'il y a un biais global d'évitement, c'est-à-dire qu'ils regardent plus le soft que les stimulés à l'alcool. Et ça, c'est attendu. Le résultat, et c'est là que ça devient plus intéressant, le résultat est identique et même accentué chez les personnes qui sont dépendantes à l'alcool sans craving. Donc, pour dire simplement, si on n'a pas de craving ou d'envie d'alcool au moment de l'étude, eh bien, on va regarder beaucoup plus le soft que le stimulus alcool. Et le résultat est inverse chez les patients, donc il y a une tendance à un biais d'approche chez les patients qui ont un craving. C'est-à-dire que l'aspect déterminant, ce n'est pas la consommation d'alcool général, donc ce n'est pas le fait de dépendre à l'alcool, c'est le fait d'au moment de l'étude, juste au moment de l'étude, donc à quel point vous avez envie d'alcool au moment de l'étude, c'est ça qui est le facteur déterminant pour prédire la présence d'un biais attentionnel. Donc biais d'évitement chez les non-craveurs et biais attentionnel chez les craveurs, ce qui est complètement opposé à l'hypothèse de base qui était que tous les patients devraient automatiquement avoir un biais attentionnel indépendamment de leur état motivationnel actuel. Troisième postulat, on a fait passer cette étude chez des étudiants binge drinkers, donc non dépendants à l'alcool, mais consommateurs importants, une population sous-clinique. Ce qu'on observe, si on regarde le groupe complet des binge drinkers, c'est que chez les contrôles, on voit encore cette idée, donc c'est toujours le temps de fixation totale. On voit toujours cette idée d'un biais d'évitement, on regarde plus le soft que l'alcool. Par contre, chez les binge drinkers, on voit, si on prend le groupe complet, on ne voit pas d'effet. Donc globalement, en tant que groupe, ils regardent autant l'alcool que le soft. Par contre, si on sépare les binge drinkers qui ont du craving au moment de l'étude en mauve plus foncé et ceux qui n'ont pas de craving au moment de l'étude, eh bien on voit qu'il y a un biais attentionnel fort envers l'alcool chez ceux qui ont un craving au moment de l'étude. Et à vrai dire, biais attentionnel qui est très marqué, plus marqué que celui des patients. Ce que ça veut dire, c'est que, encore une fois, c'est le craving qui détermine le biais attentionnel, mais ce biais attentionnel, il peut tout à fait être présent et même de manière plus intense dans une population sous-clinique par rapport à une population clinique. Oui.
Comment est-ce qu'on peut être un binge drinker, donc si j'ai bien suivi, pas dépendant, tout en étant craving?
Oh, le craving, vous n'avez jamais de craving pour... Enfin, je ne vais pas vous demander si vous avez du craving pour l'alcool, mais... Ah non, non, tout le temps, ce n'est pas une bonne réponse, par contre, mais faites attention quand même. Non, je veux dire, le craving, c'est la question qu'on pose, c'est à quel point est-ce que maintenant, à ce moment-ci, vous avez envie d'alcool, vous avez envie de consommer de l'alcool. C'est un peu plus complexe que ça, mais globalement, c'est ça. Et donc ça, le craving, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux addictions. On a du craving, les sujets sains, ont du craving pour l'alcool quand ils ont potentiellement envie d'alcool. Les fumeurs ici dans la salle vont avoir un craving intense à la fin de l'heure. Si vous n'avez pas mangé depuis hier matin, vous allez avoir du craving pour la... Donc le craving, ce n'est pas quelque chose de spécifique aux addictions. C'est ça que je veux dire. Mais donc les binge drinkers ont un craving qui est, à vrai dire, très facile. On les fait venir au labo en fin de journée et souvent les journées où ils savent qu'ils vont consommer le soir. Donc, trouver des étudiants qui ont envie de boire de l'alcool, c'est pas la chose la plus complexe dans mon métier. C'était bien votre question?
Oui, je suis d'accord avec ma question. C'est-à-dire que En fait, là, si vous comparez avec le fait d'avoir faim, oui, je suis d'accord, manger, ce n'est pas une addiction. En même temps, si on ne mange pas, on va se sentir très mal. Et donc, il y a quand même un parallèle avec la dépendance. C'est-à-dire que j'avais l'impression, mais c'est parce que j'y connais rien, hein, que quand on a du craving, il y a quand même une forme de dépendance. C'est-à-dire que, je ne
Alors,
sais pas, mais.
c'est la définition du craving.
Oui, c'est peut-être ça, c'est parce que je ne connais pas forcément très bien la définition du craving.
Alors, vous avez raison, dans le sens où le craving est un critère, et j'y reviendrai, mais un critère important de dépendance, c'est-à-dire dans les critères DSM pour dire si on a pour déterminer si on a une addiction, le craving, c'est-à-dire cette envie irrépressible, incontrôlée et très fréquente d'alcool, c'est un critère. Après, peut-être que la définition de craving qu'on utilise là est une définition plus soft, c'est-à-dire que ce n'est pas une envie irrépressible. Chez les patients, le critère, c'est une envie irrépressible, incontrôlable et avec des pensées récurrentes, j'y reviendrai, mais des pensées très fortes et quelque chose qui est vraiment irrépressible. Chez les binge drinkers ou dans la population générale, c'est une envie qui est forte, mais qui peut être contenue au moins parce qu'on a encore du contrôle. Donc, peut-être qu'en effet, la définition de craving est peut-être plus souple que celle qu'on peut avoir dans les critères DSM, d'où la confusion. Oui, OK. Donc, pour conclure sur ce que j'ai tenté de montrer ici, les modèles prédisent donc le modèle de Robinson et Berridge, mais plus globalement les modèles basés sur le système de la récompense vont prédire que le biais est précoce, automatique, qu'il est stable, indépendant du craving, et qu'il est proportionnel à la sévérité du trouble, qu'il arrive progressivement. Et ce qu'on montre, ou ce qu'on suggère en tout cas, c'est que ces trois assertions sont erronées. Quand on regarde les comportements avec une méthode fiable d'eye tracking, eh bien on invalide. C'est une assertion forte, mais en tout cas, on a des données qui vont à l'encontre de l'hypothèse que le biais attentionnel est le corrélat comportemental massif de l'hyperactivation du système de récompense ou du bonding. Et si on va plus loin, on suggère qu'on n'a pas actuellement d'indice comportemental fort laissant penser qu'il y a une hyperactivation constante et spécifique du système de la récompense chez les patients. Je ne vais pas dire qu'on remet en cause l'ensemble des données de neurosciences, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire qu'en tout cas, les corrélats comportementaux ne sont pas aussi évidents. Et cette idée d'une hyperactivation constante d'un système de récompense qui est constamment suractivé face aux stimulations alcool, bah, elle est quand même assez invalidée par ces données. Ça conduit, parce qu'on n'est évidemment pas les seuls à faire ça, à renouveler les modèles et la prise en charge. Pour les modèles, il y a toute une réflexion qu'on mène notamment avec Matt Field, et qui mène très bien tout seul d'ailleurs, sur le rôle des biais attentionnels. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de central dans les modèles? Et puis ça a une implication clinique beaucoup plus forte parce qu'on voit de plus en plus d'hôpitaux qui développent des structures de réentraînement, des séances de réentraînement intentionnel où on va tenter, avec l'idée que le biais attentionnel est ce qui cause la surconsommation, on va tenter de réduire, par du réentraînement intentionnel, de réduire ce biais attentionnel. Or, on voit que dans la littérature, c'est quelque chose qui est assez populaire en clinique actuellement, on voit que dans la littérature, les données ne vont pas dans ce sens-là et pas que les nôtres. Et encore une étude récente montre que globalement, on peut modifier le biais attentionnel, c'est-à-dire qu'on peut faire que les personnes regardent moins l'alcool, mais ça n'a d'influence forte ni sur la fréquence de consommation, ni sur le craving. Et donc, cette idée, l'idée qu'on défend, c'est que c'est le craving qui crée le biais attentionnel. Et donc, le craving étant labile et modifiable et variable, le biais attentionnel est aussi variable. Donc, ce n'est pas le biais attentionnel qui est la cause stable de l'ensemble de la consommation et notamment du craving qui suit. Donc, il y a aussi, ce que je voulais montrer, c'est une implication clinique qui est cette mode, entre guillemets, de réentraînement attentionnel. Elle part évidemment d'une bonne intention, mais il me semble qu'on l'applique déjà de manière beaucoup trop générale et je ne suis pas sûr que, au vu de nos données, ça va avoir une influence sur la consommation d'alcool réel et sur la réduction du craving et du trouble. C'est donc ici la première illustration de l'utilisation de la neuropsychologie intégrative pour tester comportementalement. Donc, j'espère que enfin, vous avez eu ce lien entre les aspects de neurosciences et les aspects de psychologie. Finalement, ce qu'on a fait, c'est de la psychologie expérimentale pour tester comportementalement et mettre en doute les postulats des modèles de neurosciences. Des questions à ce stade? Oui.
C'est pas une question, on va voir l'expérience. Comme j'ai pas de conscience de la science après j'ai remarqué que moi-même, j'ai développé un biais attentionnel, ma vie, pour tout ce qui était FDJ, PLE, etc. Mais n'ayant aucun craving pour les jeux d'argent, ça n'a aucune conséquence. J'ai remarqué qu'à force d'entendre parler des personnes, tout ça, etc., maintenant, j'ai fait devenir un radar à repérer tous les jeux que je veux. Je me dis, mais les jeux, les marques, comment ils font pour gérer?
C'est vrai, c'est une bonne remarque. Le biais attentionnel, c'est d'abord, ça n'existe pas que dans les addictions, c'est un apprentissage général. Je veux dire, on a des études sur le biais attentionnel envers des vétérinaires qui ont un biais attentionnel envers les animaux dans des scènes. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ont une. J'espère qu'il. Enfin, ouais, ça sera coupé au montage. Mais ce que je veux dire, c'est que le biais attentionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus général et ça n'implique pas, ça va dans le même sens que ce qu'on dit, ça n'implique pas de facto une. Ce n'est pas. L'illustration d'une suractivation du système de la récompense n'implique pas de facto un comportement de consommation, ça c'est sûr. Ouais. Oui. Ah oui, pardon, je peux faire ça. À partir de la suivante. Okay. Très bien, d'autres remarques? Ok. Ah oui. En fait, donc la question c'est est-ce qu'on a un corrélat clinique de la présence d'un biais attentionnel ou d'un biais d'approche ou d'un biais d'évitement? En vérité, notre hypothèse, c'est que le biais attentionnel, c'est quelque chose d'hyper labile et que donc on n'a pas des patients. On se met souvent dans l'idée qu'il y a des patients qui ont un biais attentionnel très fort et c'est ce qu'on fait quand on fait du réentraînement attentionnel. On leur fait passer une évaluation de leur biais, et on dit celui-là, il a un biais très fort, donc on va lui faire du réentraînement. Mais notre hypothèse, et qu'on a pu observer sur des mesures longitudinales, c'est que le biais, c'est quelque chose de très labile. Donc il n'y a pas de patients qui ont un biais attentionnel stable très haut et d'autres qui ont un biais attentionnel stable très bas. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus labile et qui est lié au craving. Après, il y a des patients qui ont un craving beaucoup plus fort et donc potentiellement un biais attentionnel beaucoup plus fort de manière plus fréquente. Et évidemment, là, on passe dans la littérature sur le craving. On sait qu'un craving intense, notamment en fin de sevrage, est un prédicteur fort d'une rechute proche. Et donc, mon idée, ce n'est pas de dire le craving n'a pas d'importance, c'est de dire d'une part le craving, mais ça on le sait, est quelque chose de très variable, même s'il y a des différences individuelles. Et d'autre part, le biais attentionnel n'est pas la cause du craving et n'est pas un indice stable d'une prédiction de rechute, par exemple.